Chapitre 33. Une première nuit. Nunzingen donna le bras à Esther, il l'emmena comme elle se trouvait et la mit dans sa voiture avec plus de respect peut-être qu'il n'en aurait eu pour la belle duchesse de Maufrigneuse. « Fiserait un bel équipage, le plus joli de Paris !» disait Nunzingen pendant le chemin. « Tout ce que le lit a de plus jamais, fils endurera, et une reine ne sera pas plus riche que fut. » Vous serez respecté comme une fiancée d'Allemagne. Je vous fais libre. Ne pleurez point et goudez. Je fis aime véritablement d'amour pur. J'agune de vos larmes me prise le cœur. Aime-t-on d'amour une femme qu'on achète ? Demanda d'une voix délicieuse la pauvre fille. Joseph a bien été fendi par ses frères à cause de sa gentillesse. C'est dans la pipe. D'ailleurs, dans l'Orient, on achète ces femmes légitimes. Arrivée rue Tête-Boue, Esther ne put revoir sans des impressions douloureuses le théâtre de son bonheur. Elle resta sur un divan, immobile, étanchant ses larmes une à une, sans entendre un mot des folies que lui baragouinait le banquier. Il se mit à genoux, elle l'y laissa sans lui rien dire, lui abandonnant ses mains quand il les prenait, mais ignorant, pour ainsi dire, de quel sexe était la créature qui lui réchauffait les pieds, que Nunzingen trouva froid. Cette scène de larmes brûlantes semées sur la tête du baron et de pieds à la glace réchauffés par lui dura de minuit à 2 heures du matin. « Icheni !» dit enfin le baron en appelant Europe. « Obtenait-on de votre maîtresse qu'elle se gouche ?»« Non !» s'écria Esther en se dressant sur ses jambes comme un cheval effarouché. « Jamais ici !»« Tenez, monsieur, je connais madame, elle est douce et bonne comme un agneau, » dit Europe au banquier. « Seulement, il ne faut pas la heurter, il faut toujours la prendre de biais. Elle a été si malheureuse ici. Voyez, le mobilier est bien usé. Laissez-lui suivre ses idées. Arrangez-lui, là, bien gentiment, quelque joli hôtel. Peut-être qu'en voyant tout nouveau autour d'elle, elle sera dépaysée, elle vous trouvera peut-être mieux que vous n'êtes et sera d'une douceur angélique. Oh, madame n'a pas sa pareille et vous pouvez vous vanter d'avoir fait une excellente acquisition. Un bon cœur, des manières gentilles, un coup de pied fin, une peau, ah ! Et de l'esprit à faire rire des condamnés à mort. Madame est susceptible d'attache et comme elle sait s'habiller. Eh bien, si c'est cher, un homme en a, comme on dit, pour son argent. Ici, toutes ses robes sont saisies, sa toilette est donc arriérée de 3 mois. Mais madame est si bonne, voyez-vous, que moi je l'aime et c'est ma maîtresse. Mais soyez juste, une femme comme elle, se voir au milieu de meubles saisis, et pour qui ? Pour un garnement qui l'a roué. Pauvre petite femme, elle n'est plus elle-même. Esther, Esther, disait le baron. « Gouche et fille, mon ange. Et si c'est de moi qui vous fait peur, je resterai sur ce ganabé !» s'écria le baron, enflammé par l'amour le plus pur, en voyant qu'Esther pleurait toujours. « Eh bien !» répondit Esther, en prenant la main du baron et la lui baisant avec un sentiment de reconnaissance qui fit venir aux yeux de ce loup-cervier quelque chose d'assez ressemblant à une larme.
« Je vous en saurai gré !»
Et elle se sauva dans sa chambre en s'y enfermant. « Il y a quelque chose d'inexplicable là-dedans, » se disait Nunzingen en s'asseyant sur le canapé. « Que dira-t-on chez moi ?» Il se leva, regarda par la fenêtre. « Ma froidure est toujours là. Voici bien d'eau le jour. » Il se promena par la chambre. « Comme mon dame de Nunzingen se moquerait de moi, si jamais elle savait comment j'ai passé cette nuit ?» Il alla coller son oreille à la porte de la chambre en se trouvant un peu trop niaisement couché. « Esther !» Aucune réponse. « Mon Dieu, elle bleure toujours !» se dit-il en revenant s'étendre sur le canapé. 10 minutes environ après le lever du soleil, le baron de Nunzingen, qui s'était endormi de ce mauvais sommeil pris par force et dans une position gênée sur un divan, fut éveillé en sursaut par Europe au milieu d'un de ces rêves qu'on fait alors et dont les rapides complications sont un des phénomènes insolubles de la physiologie médicale.
« Ah mon Dieu, madame » criait-elle. « Madame, des soldats, des gendarmes, la justice, on veut vous arrêter !»
Au moment où Esther ouvrit sa porte et se montra, mal enveloppée de sa robe de chambre, les pieds nus dans ses pantoufles, ses cheveux en désordre, belle à faire damner l'ange Raphaël, la porte du salon vomit un flot de boue humaine qui roula sur 10 pattes vers cette céleste fille, posée comme un ange dans un tableau de religion flamand. Un homme s'avança. Contenson, l'affreux Contenson, mit sa main sur l'épaule moite d'Esther. « Vous êtes mademoiselle Esther Van, » dit-il. Europe, d'un revers appliqué sur la joue de Contenson, l'envoya d'autant mieux mesurer ce qu'il lui fallait de tapis pour se coucher, qu'elle lui donna dans les jambes ce coup sec, si connu de ceux qui pratiquent l'art dit de la savate. « Arrière » cria-t-elle, « on ne touche pas à ma maîtresse !»« Elle m'a cassé la jambe !» criait Contenson en se relevant. « On me la paiera !» Sur la masse, des saints records vêtus comme des records, gardant leurs chapeaux affreux sur leurs têtes plus affreuses encore, et offrant des têtes de bois d'acajou veinées, ou les yeux louchés, ou les nez manqués, ou les bouches grimacées, se détacha Louchard, vêtu plus proprement que ses hommes, mais le chapeau sur la tête, la figure à la fois doucereuse et rieuse. « Mademoiselle, je vous arrête, » dit-il à Esther. « Quant à vous, ma fille, » dit-il à Europe, « toute rébellion serait punie, et toute résistance est inutile. » Le bruit des fusils, dont les crosses tombèrent sur les dalles de la salle à manger et de l'antichambre, en annonçant que le garde était doublé de la garde, appuya ce discours. « Et pourquoi m'arrêter ?» dit innocemment Esther. « Et nos petites dettes ?» répondit Louchard. « Ah, c'est vrai !» s'écria Esther. « Laissez-moi m'habiller !» « Malheureusement, mademoiselle, il faut que je m'assure si vous n'avez aucun moyen d'évasion dans votre chambre, » dit Louchard. Tout cela se fit si rapidement que le baron n'avait pas encore eu le temps d'intervenir. « Eh bien, je suis à cette ire une fanteuse de chair humaine, baron de Nischingen !» s'écria la terrible Asie en se glissant à travers les records jusqu'au divan où elle feignit de découvrir le banquier. « Filaine trollesse ! » s'écria Nucingen, qui se dressa dans toute sa majesté financière, et il se jeta entre Esther et Louchard, qui lui ôta son chapeau à un cri de Contenson. « Monsieur le baron de Nucingen !» Au geste que fit Louchard, les records évacuèrent l'appartement en se découvrant tous avec respect. Contenson seul resta. « Monsieur le baron, paie-t-il ? » demanda le garde qui avait son chapeau à la main. « Je baille, » répondit-il. « Mais encore faut-il savoir de quoi il s'agit. 312 000 francs et des centimes frais liquidés, mais l'arrestation n'est pas comprise. »« 300 000 francs !» s'écria le baron. « C'est un réfeil trop cher, bira un homme qui a basé la nuit, Zirène Canabé, » ajouta-t-il à l'oreille d'Europe. « Cet homme est-il bien le baron de Nucingen ?» dit Europe à Loucha, en commentant son doute par un geste que Mademoiselle Dupont, la dernière soubrette du théâtre français, eut envié. « Oui, mademoiselle, » dit Louchard. « Oui, » répondit Contenson. « Je réponds-elle, » dit le baron à Louchard. « Laissez-moi lui dire à une mode. » Esther et son vieil amoureux entrèrent dans la chambre, à la serrure de laquelle Louchard trouva nécessaire d'appliquer son oreille. « Je fus aime blique ma fille, Esther. » Mais bien quoi tonner à faux créanciers de l'argent qui serait un viniment de mien dans votre birse. Allez en prison. Je me fais vord de rajeuner ces 100 000 écus avec 100 000 francs et fuserai 200 000 francs pirfu. Ce système, lui cria Louchard, est inutile. Le créancier n'est pas amoureux de mademoiselle, lui. Vous comprenez? Et il veut plus que tout depuis qu'il sait que vous êtes épris d'elle. Fis-tu pédate! S'écria Nucingen à Louchard en ouvrant la porte et en l'introduisant dans la chambre. « Tu ne sais ce que tu dis. Je te donne à toi 20% si tu veux la faire. »« Impossible, monsieur le baron. »« Comment, monsieur, vous auriez le cœur, dit Europe en intervenant, de laisser aller ma maîtresse en prison? Mais voulez-vous mes gages, mes économies? Prenez-les, madame, j'ai 40 000 francs. »« Ah, ma pauvre fille, je ne te connaissais pas. » dit Esther en serrant Europe dans ses bras. Et Europe se mit à fondre en larmes. « Je baille !» dit piteusement le baron en tirant un carnet. Il y prit un de ces petits carrés de papier imprimés que la banque donne aux banquiers et sur lesquels ils n'ont plus qu'à remplir les sommes en chiffres et en toutes lettres pour en faire des mandats payables au porteur. « Ce n'est pas la peine, monsieur le baron, » dit Louchard. « J'ai ordre de ne recevoir mon paiement qu'en espèces d'or ou d'argent. À cause de vous, je me contenterai de billets de banque. »
« Tartèfle ! » s'écria le baron. « Montrez-moi donc les didres !»
Contenson présenta trois dossiers couverts de papier bleu que le baron prit en regardant Contenson, auquel il dit à l'oreille
« Tu aurais fait une meilleure churnée en m'affertissant !»«
Eh, vous savez-je ici, monsieur le baron ?» répondit l'espion, sans se soucier d'être ou non entendu de Louchard. « Vous avez bien perdu en ne me continuant pas votre confiance. »«
On vous carotte !»
ajouta ce profond philosophe en haussant les épaules.
« C'est de frais !» se dit le baron.
« Ah, ma bédide » s'écria-t-il en voyant les lettres de change et s'adressant à Esther.
« Fusette la fidime d'un faquin gauquin. Un escrobe !»«
Hélas, oui !» dit la pauvre Esther. « Mais il m'aimait bien. »«
Si j'avais si, j'aurais fait une opposition entre vos mains. »«
Vous perdez la tête, monsieur le baron, » dit Louchard. « Il y a un tiers porteur. »«
Oui, » reprit-il, « il y a un dierbordier. »« Cérizède, un homme d'opposition. »«
Il a le malheur spirituel, » dit en souriant Contenson. « Il fait un calembour. »
« Monsieur le baron veut-il écrire un mot à son caissier ?» dit Louchard en souriant.
« Je vais y envoyer Contenson et renverrai mon monde. L'heure s'avance et tout le monde saurait... »«
Fa, Contenson !» cria Nucingen. « Mon caissier demeure au Gouin de la Rie des Madurins et de l'Argate. Voici un mode, avant qu'il aille que dîler ou gué les quélaires, tant le gars où nous n'aurions pas 50 000 écus, car notre achat est dû à la panque.
« Habillez-vous, mon hanche !» dit-il à Esther.
« Vous êtes libre !»« Les vieilles femmes, » dit-il en regardant Asie, « sont des plus dangereuses que les chênes. »«
Je vais aller faire rire le créancier, » lui dit Asie, « et il me donnera de quoi m'amuser aujourd'hui. »«
En rancune, monsieur le paron !»
ajouta la mulâtresse en faisant une horrible révérence.
Louchard reprit les titres des mains du baron et resta seul avec lui au salon où, une demi-heure après, le caissier vint, suivi de Contenson.
Esther reparut alors dans une toilette ravissante, quoique improvisée. Quand les fonds eurent été comptés par Louchard, le baron voulut examiner les titres. Mais Esther s'en saisit par un geste de chatte et les porta dans son secrétaire.
« Que donnez-vous pour la canaille ?» dit Contenson à Nucingen.
« Fus n'avez pas époque ou d'écart !» dit le baron.
« Et ma jambe ?» s'écria Contenson.
Luchard lui donnerait 100 francs à Gondenson sur le reste du pillet de 1 000.
C'est une bien belle femme,
disait le caissier au baron de Nucingen en sortant de la rue Têtebout, mais elle goûte bien cher à Monsieur le Paron.
Gardez-moi le secret, dit le baron, qui avait aussi demandé le secret à Gondenson et à Louchard.
Louchard s'en alla, suivi de Contenson, mais sur le boulevard, Asie qui le guettait, arrêta le garde du commerce.
« L'huissier et le créancier sont là dans un fiacre, ils ont soif, lui dit-elle, et il y a gras. »
Pendant que Louchard comptait les fonds, Contenson put examiner les clients. Il aperçut les yeux de Carlos, distingua la forme du front sous la perruque, et cette perruque lui sembla justement suspecte. Il prit le numéro du fiacre, tout en paraissant totalement étranger à ce qui se passait. Asie et Europe l'intriguaient au dernier point. Il pensait que le baron était victime de gens excessivement habiles, avec d'autant plus de raison que Louchard, en réclamant ses soins, avait été d'une discrétion étrange. Le croque-en-jambe d'Europe n'avait pas, d'ailleurs, frappé Contenson seulement au tibia.
« C'est un coup qui sent son Saint-Lazare » s'était-il dit en se relevant.
Carlos, renvoyant l'huissier, le paya généreusement et dit au fiacre en le payant
« Palais Royal, au perron !»
« Ah, le matin !» se dit Contenson qui entendit l'ordre. « Il y a quelque chose !» Carlos arriva au Palais Royal d'un train à ne pas avoir à craindre d'être suivi. D'ailleurs, il traversa les galeries à sa manière, prit un autre fiacre sur la place du Château d'Eau en lui disant « Passage de l'Opéra du côté de la rue Pinon !» Un quart d'heure après, il entrait rue Têtebout chez Esther qui lui dit « Voilà les fatales pièces !» Carlos prit les titres, les examina, puis il alla les brûler au feu de la cuisine.
Le tour est fait, s'écria-t-il en montrant les 310 000 francs roulés en un paquet qu'il tira de la poche de sa redingote. Ça et les 100 000 francs d'Asie nous permettent d'agir.
Mon Dieu, mon Dieu! S'écria la pauvre Esther.
Mais imbécile, dit le féroce calculateur, sois ostensiblement la maîtresse de Nucingen et tu pourras voir Lucien. Il est l'ami de Nucingen. Je ne te défends pas d'avoir une passion pour lui. Esther aperçut une faible clarté dans sa vie ténébreuse et elle respira.